Rendez-vous nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com.
Le Réseau ZEC, 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt-à-camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez réseauzec.com.
Partout au Québec, vous écoutez l'émission radio consacrée à la chasse, à la pêche et au plein air. Rendez-vous nature.
Merci d'avoir accepté mon invitation de cette semaine à Rendez-vous Nature. Et quelle semaine! Vous êtes sur le bon poste. Restez avec moi pour la prochaine heure où il sera question des derniers événements concernant cette saga entourant le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes à feu au Canada. Ici Ernie Wells qui salue tous les amateurs de chasse, de pêche et plein air qui sont au repos en cette période-ci de l'année et tous les auditeurs et auditrices qui ne chassent ni de pêche mais qui pourtant partagent Rendez-vous Nature avec nous tous. Cette semaine, Rendez-vous Nature, le contrôle des armes à feu et le projet de loi C-21 a suscité toutes sortes de déclarations qui portent à confusion. Est-ce que cette saga entache l'image de la chasse? Stéphanie Vanney de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs.
Bien, pas du tout, parce que les chasseurs sont très bien représentés. Je pense que le discours est loin d'être dogmatique ici. La population comprend que ce qui est revendiqué, c'est simplement le gros bon sens.
J'espère qu'ils sont propres parce que Carey Price s'est mis les pieds dans la bouche en prenant une position irréfléchie et malhabile sur le contrôle des armes au pays. Ses propos discordants ont mis le feu aux poudres. Martin Bourget d'Aventure Chasse-Pêche.
Mais est-ce qu'on va demander à Carey Price dans ses propos de se remettre en question alors qu'il est en plein dans le mille dans le dossier qui est déporté complètement dans le mauvais sens et qu'on ne devrait pas plus demander au gouvernement de faire une remise en question puisqu'il nous parle de sécurité publique et qu'il cible complètement à gauche.
Et parlons enfin de chasse avec notre chroniqueur Rendez-vous Nature, Charles-Henri Doris, qui revient de l'Alberta où, à sa toute dernière journée de chasse, il a réalisé son rêve.
Un spot en particulier où j'avais un mâle là, d'un pointage Bull & Crockett approximativement de 165. Je ne me considère pas un chasseur de trophées. Par contre, lorsqu'il y a des gros, je concentre mon énergie sur ceux-là, mon focus.
Les trompes de chasse de Rallye Québec nous invitent aux nouvelles brèves de la semaine et c'est maintenant au tour du centre du Québec de se retrouver avec des oies sauvages mortes qui auraient aussi contracté la grippe aviaire. Après la Montérégie la semaine dernière, plusieurs oiseaux morts ont été retrouvés maintenant à Drummondville et à Victoriaville où 200 carcasses d'oies mortes ont été ramassées en fin de semaine dernière au réservoir Baudet dans la région de Victoriaville. Ces oiseaux partagent le virus de la grippe aviaire le long des couloirs migratoires et Québec a mis sur pied un programme de surveillance des oiseaux. 806 spécimens ont déjà été analysés, mais on ne connaît toujours pas l'origine de cette maladie. On a vu le même phénomène en juin en Gaspésie où la grippe aviaire a frappé des oiseaux sauvages et des fous de bassin de l'île Bonaventure. Ce virus se transmet difficilement à l'être humain. Si vous trouvez une carcasse, ne pas la manipuler et signaler sa présence aux autorités concernées. Plutôt inquiétant tout ça, mais il reste quand même que ça risque de freiner la pratique de cette chasse de l'oie blanche et de favoriser en même temps l'accroissement des populations qui minent bien sûr les champs des agriculteurs. Héritage Fonds, la Fondation de la Fédération québécoise des chasseurs et pêcheurs, a recueilli 142 000 $ pendant sa collecte de fonds du mois de novembre. Cette collecte avait pour but de soutenir le plus d'associations possibles dans l'organisation d'activités de chasse et de pêche pour la relève. 200 invités ont aussi participé au souper bénéfice de la Fondation, présidé par le PDG de la CEPAC, Jacques Caron. Le recrutement de la relève est un enjeu crucial dans un contexte de vieillissement de la population. Les bénévoles se dévouent à perpétuer les activités de chasse et de pêche, ce qui entraîne une augmentation accrue des demandes de financement, d'où le pourquoi de Héritage Faune. La survie du caribou de la Gaspésie dépendra de notre capacité à lui laisser davantage de territoire. Or, selon Environnement Vert Plus Gaspésie, les titres miniers qui jouxent le parc de la Gaspésie deviendront rapidement un obstacle à l'agrandissement d'un territoire protégé essentiel à la survie du caribou. Les nouvelles cartes indiquent un boom de claims miniers variant de 63 % à 139 % depuis 24 mois en Estrie, au Bas-Saint-Laurent et en Gaspésie. Des dizaines de municipalités réclament un moratoire sur l'attribution des nouveaux claims tant que les règles de la loi sur les mines n'auront pas été modifiées pour protéger les milieux naturels. Il y a un boom minier près de chez vous. Je ne sais pas ce qu'ils cherchent, mais ils finiront par trouver à force de chercher, ça c'est sûr. Pendant ce temps, le dossier du déclin prononcé du caribou ne figure pas aux discussions en cours de la COP15 à Montréal. Le ministre Benoît Charest dit qu'il dévoilerait son plan en juin. Encore une belle occasion perdue. La perte de la biodiversité est attribuable en grande partie à l'exploitation forestière, principale cause du déclin du caribou en Gaspésie. Il faudra aussi protéger la rivière Magpie, une des dernières rivières sauvages du Québec et une des plus belles rivières au monde. Quand on entend le premier ministre Legault parler de nouveaux barrages, l'inquiétude prend le dessus. Pourtant, depuis 2015, il y a un projet d'air protégé pour la Magpie, longue de 280 km. La Magpie est située sur la côte nord et prend sa source dans le plateau du Labrador et s'écoule jusqu'à l'embouchure dans le golfe Saint-Laurent, entre les municipalités de Rivière-Saint-Jean et de Magpie. Les élus municipaux et des organismes environnementaux ont uni leur voix pour déclarer la rivière Magpie personne juridique et pour lui reconnaître des droits. Cette déclaration politique vise à protéger la rivière contre la construction éventuelle de barrages hydroélectriques. On s'arrête ici pour une courte pause et après celle-ci, on revient sur la saga entourant le projet de loi C-21 sur le contrôle des armes qui a dérapé tout au cours de la dernière semaine. Restez là, on revient dans quelques minutes.
Le Réseau ZEC. 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt-à-camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez réseauzec.com.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vousnature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vousnature.ca.
Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre au 15 janvier, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le CEPAC.com ou au 1-800-665-6527.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Ce conseil de professionnel, une présentation des marchands Pro Nature du Québec.
Vos marchands Pro Nature, des conseillers spécialisés, vous attendent en magasin pour vous transmettre leur passion et vous guider dans vos achats. C'est le temps d'en profiter. Visitez notre site web au groupepronature.ca pour trouver votre marchand le plus près de chez vous. Vos marchands Pro Nature, une expérience complète pour la chasse, la pêche et le plein air.
Conseil de pro de la semaine avec Mario Rance de la famille Pro Nature. Mario va parler de la chasse aux coyotes, une chasse très populaire, mais une chasse plus complexe qu'on peut le penser.
Exactement. Une chasse aux coyotes, c'est le fun. C'est une chasse qui est très, très technique. On pratique les tirs longue distance, on pratique les calls. Encore là, les sites d'appâtage. C'est quelque chose, dans le fond, un coyote, c'est très, très méfiant. Ça a beaucoup de qualité. Fait que dans le fond, faut vraiment miser sur tous les petits détails, les odeurs, le tir, parce qu'on s'entend qu'un coyote, c'est pas un animal qui est si gros. Puis souvent, on va le tirer à des longues distances. Fait qu'il faut être sûr de notre arme, faut avoir les bonnes munitions, faut que notre arme soit bien ajustée. Fait que dans le fond, ça joue beaucoup entre la technique, le call et le tir. Être capable de chasser un coyote ou de réussir à chasser un coyote, c'est comme gagner une médaille d'or. C'est toujours une fierté parce que, comme je te disais tantôt, c'est vraiment technique. Fait qu'en plus, tu peux dire, ben regarde, si j'ai eu un coyote, j'ai sauvé peut-être X nombre de chevreuils. Puis en plus, j'ai réussi la chasse qui est très technique. Fait que c'est comme une petite médaille d'or.
Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
De retour à Rendez-vous Nature, le gouvernement Trudeau a poursuivi discrètement, et je l'écris en grosses lettres, sa croisade sur le contrôle des armes en modifiant la définition d'une arme prohibée pour y ajouter des centaines d'armes qui, sans être des armes semi-automatiques, sont utilisées par les chasseurs de façon sécuritaire. J'ouvrirai une parenthèse pour dire que finalement, toutes les armes sont potentiellement des armes de chasse. Mais enfin, mais lorsque Ottawa a sorti sa loi C-21, le premier ministre Trudeau s'était pourtant engagé à ne pas s'en prendre aux chasseurs. Or, dans l'amendement proposé, les mots « armes de chasse » sont écrits noir sur blanc. Puis je pense que je vais, à ce stade-ci de l'entrevue que j'ai avec Stéphanie Vanette de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs, il est bon de rappeler cette définition qui dit « une arme à feu qui est un fusil ou un fusil de chasse, voilà le mot « chasse » est utilisé, capable de décharger des munitions à percussion centrale de manière semi-automatique et qui est conçu pour accepter un chargeur de cartouches détachable d'une capacité supérieure à 5 cartouches. » Alors donc, j'en parle avec Stéphanie Vanette de la Fédération québécoise des chasseurs et des pêcheurs. Je ne rebrasserai pas tout ce qui s'est dit au cours de la dernière semaine, mais toute cette nouvelle définition d'une arme prohibée est comme sortie d'une boîte à surprise sans consultation des groupes intéressés. Rien ne laisse à croire finalement à ce rebondissement soudain de ce projet de loi C-21.
Effectivement, on est très inquiet de ces amendements-là qui sont apparus dans le processus à minuit moins une, puis qui soudainement visent les armes de chasse. Il faut se rappeler qu'au départ, quand C-21 a été déposé au printemps, on visait principalement des enjeux de sécurité publique et, comme vous l'avez dit d'entrée de jeu, le gouvernement avait mentionné que les armes de chasse ne seraient pas visées par ce projet de loi-là. Ce qui n'est pas le cas là, avec les amendements dont on a pris connaissance là, dans les dernières semaines. Pour nous, c'est clair qu'on rate la cible en visant les chasseurs et les tireurs sportifs qui utilisent de façon tout à fait légale et sécuritaire les armes à feu.
Absolument. Puis là, depuis une semaine, on assiste à des appuis, des dénonciations, des commentaires de commentateurs que je dirais pas toujours objectifs, puis ça paraît à l'écran. Carey Price a dénoncé à sa façon la loi C-21, mais il n'a pas fait de la bonne façon, il s'est mêlé les pieds, bon, tout ça. Il ignorait sûrement la promotion de la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu qui offrait 10% de rabais, puis ça a mis de l'huile sur le feu avec le mot poli. Ben oui. Mais penses-tu que tout ça, tout ce débat stérile par moment, instructif par d'autres moments, est venu porter ombrage à l'image de la chasse?
Bien, pas du tout, parce que depuis le début là, des représentations médiatiques, les chasseurs sont très bien représentés. Je pense que le discours est loin d'être dogmatique ici. La population comprend que ce qui est revendiqué, c'est simplement le gros bon sens. Donc, on a été inclus dans le processus, dans le projet de loi, à la dernière minute, une fois que les consultations d'experts avaient déjà été effectuées, et on arrive avec une définition d'une arme prohibée beaucoup trop large qui vient mettre un peu toutes les armes dans le même panier. Donc, je suis pas inquiète pour l'image de la chasse. Bien au contraire, on se défend bien. On voit que le discours est sensé, que le discours est réaliste et que tout ce qu'on veut finalement, c'est pas de dire on ne veut pas se préoccuper des enjeux de sécurité publique. C'est de dire les chasseurs, les tireurs sportifs ne sont pas des criminels et sont tout à fait outillés pour utiliser de façon sécuritaire leurs armes à feu. Si on veut vraiment s'attaquer à des enjeux de sécurité publique, on doit mettre en place les bons moyens. Et pour nous, ces amendements-là ne sont pas des moyens concrets et efficaces d'améliorer notre sécurité publique.
Mais t'as pas l'impression que, là je reviens sur Carey Price, là, quand il s'est servi d'une photo avec un 12 semi-automatique, un Benelli, je crois, puis à mon avis, cette photo-là était juste pour illustrer ses propos et non pas pour dénoncer une arme qui ne serait pas prohibée. Plusieurs intervenants, plusieurs commentateurs, même à partir du ministre de la Justice fédérale lui-même, tout le monde s'est servi de ça en disant, en résumé, pourquoi qu'il chiale? Parce que l'arme qu'il a dans les mains, elle est légale, puis elle va rester légale. Alors là, à ce moment-là, il est passé pour un ignorant. Puis tous les chasseurs du même coup.
Mais en fait, au contraire, moi je trouve que ça vient mettre le doigt sur une partie très importante de la problématique, c'est que la définition, c'est que si on part de la définition qui est proposée dans l'amendement, le problème il est là, c'est que la définition est tellement floue qu'on peine et même les experts peinent à identifier et à déterminer clairement quelles et quelles armes semi-automatiques seraient visées. Par le projet de loi. Donc, je trouve que ça vient mettre en lumière la désinformation et aussi la complexité technique là, d'un tel amendement. Puis ça vient dire, oh, OK, si on veut se lancer là-dedans, si on veut arriver avec une définition précise de ce qu'est une arme d'assaut, ça prend des experts autour de la table pour bien mettre en place les critères, parce que sinon, comme vous l'avez dit encore d'entrée de jeu, plusieurs modèles d'armes semi-automatiques deviennent des candidats à devenir prohibés demain matin si la loi est adoptée telle qu'elle. Donc, je trouve qu'au contraire, ça vient vraiment démontrer que pour se lancer dans ce débat-là, ben, ça prend des compétences très techniques et que c'est pas normal qu'on arrive dans une situation avec autant de... dans une situation qui laisse place à autant d'interprétations sans pouvoir tracer une ligne claire entre ce qu'est une arme d'assaut et ce qu'est une arme de chasse.
Puis les politiciens se prononcent sur ce projet de loi, même les partis de l'opposition. Aucun ou très rarement, il y a des politiciens qui sont même au courant de toutes les conditions requises que ça prend, même pour obtenir un certificat de chasseur et obtenir un PPA avec l'enquête policière au niveau de la GRC. Puis ce sont ces gens-là qui, en bout de ligne, prennent des décisions sans être au courant des tenants et aboutissants qui vont amener une personne à détenir puis à jouer son rôle de chasseur par tradition, puis dans une société qui accepte toujours la chasse, heureusement.
Exactement. Puis c'est pour ça, d'ailleurs, que nous, à la Fédération, on a invité la population à contacter leurs députés. On a mis en ligne un modèle de lettre qui peut venir donner des explications là, aux députés qui n'ont pas toute l'information nécessaire pour bien se positionner et bien nuancer aussi le projet de loi, parce que il faut pas que ça devienne un débat pour ou contre les armes à feu en général. Il y a plusieurs nuances à apporter là, dans ce débat-là. Puis nous, c'est vraiment ça qu'on vient dire. Puis j'ai capté une entrevue là, dernièrement dans la foulée là, de tout ce qu'on dit dans les médias à ce sujet-là. Puis j'ai trouvé ça particulièrement intéressant. C'est un policier retraité qui est interrogé. Puis il faisait une analogie en fait sur les milliers de morts qu'on a sur nos routes au Québec à chaque année, que ce soit causé par l'alcool, les drogues au volant, la vitesse, etc. Est-ce qu'on a bannit l'alcool? Est-ce qu'on bannit les drogues? Est-ce qu'on enlève du marché les véhicules sport? Non, on agit en éducation, on agit sur les individus, on fait des campagnes de sensibilisation, on éduque les gens. On peut très bien transposer ça à l'utilisation des armes à feu. Ce qui est important, si on veut une meilleure sécurité publique, c'est de l'éducation, de la sensibilisation, c'est de s'attaquer au marché noir, aux réelles armes qui circulent dans les rues de nos villes. Ce ne sont pas les armes de chasse des chasseurs de canards ou de petits gibiers qui sont problématiques, on se comprend ici.
Carey Price, il y a eu le mérite, je pense, d'alerter l'opinion publique, mais en même temps, je pense que dans les circonstances, c'est comme lui qui avait relancé le débat sur le contrôle des armes. Mais là, Stéphanie, tu es dans l'action au quotidien avec cette saga. Le projet de loi 21 a été déposé au printemps et des amendements s'ajoutent en sourdine. Le comité permanent sur la sécurité publique et nationale recommence à siéger. Justin Trudeau a déclaré qu'il s'engageait, je vais le citer, là, à ne pas capturer des armes que son gouvernement ne devrait pas. Alors, on comprend ce qu'il veut dire quand même, mais as-tu confiance, toi, qu'il va le faire et qu'il va rassurer les honnêtes chasseurs qui vont pouvoir continuer à pratiquer leur sport avec les armes qu'ils ont en leur main et qui ne sont pas des armes prohibées?
Bien, on s'attend à des actions concrètes parce que Justin Trudeau avait dit la même chose au dépôt de C-21, là, qu'il ne visait pas les armes de chasse, puis c'est le contraire qui est arrivé. Donc, bien, très bien, il s'est manifesté, tant mieux, on en est bien heureux. Les députés conservateurs, entre autres, le font tout ce qu'ils peuvent pour essayer de retarder le processus d'adoption du projet de loi qui avait été prévu effectivement là, pour la fin de 2022, donc avant les fêtes. Mais ouais. Au rythme où ça va, là, je vous dirais que il commence à avoir du sable dans l'engrenage, ce qui est une bonne nouvelle là, pour les chasseurs, pour les tireurs sportifs. On questionne beaucoup ces amendements-là et on commence à se rendre compte que effectivement ça avait été mal libellé, mal présenté, qu'il y a des ajustements à faire avant de pouvoir adopter ça.
Oui. Puis pendant ce temps-là, ben, on peut continuer comme chasseur à ajouter des poignées de sable dans l'engrenage en allant sur le site de la Fédération. Puis là, il y a une lettre circulaire, si on peut dire, là, qui est une lettre préécrite que la personne a uniquement à signer son nom, puis elle l'envoyait à son député. Puis ça, c'est facile à retrouver cette lettre-là.
Oui, tout à fait. FEDECP.com, vous avez l'outil là, idéal pour manifester votre opinion puis vos préoccupations là-dessus.
Puis on invite bien sûr tous les chasseurs à se rendre sur le site et à compléter cette lettre et à l'envoyer au PSC, à son député fédéral du coin. On va continuer à te suivre et d'ici là, ben, je te souhaite de joyeuses fêtes. On va sûrement avoir à se reparler quand toute cette saga va avoir atteint ou prendre un autre virage à la faveur des chasseurs, bien sûr. Salut!
Merci, bye-bye.
Le Réseau ZEC. 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt-à-camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez réseauzec.com.
C'est payant de cliquer j'aime et de partager la page Facebook de Rendez-vous Nature. Tous les jours, suivez nos reportages, nos entrevues et nos conseils de professionnels. Aimez, commentez et joignez la grande famille de la chasse, de la pêche et du plein air. Participez à nos concours sur Facebook et gagnez gros grâce à Rendez-vous Nature, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information faunique au Québec.
On s'imagine pas qu'il y a autant de familles qui mangent pas à leur faim au Québec. Cette année, j'ai décidé de donner de la viande de gibier pour venir en aide à des familles de ma région. C'est pas compliqué. Je dis à mon boucher la quantité que je veux donner et un organisme passe pour aller distribuer la viande aux familles dans le besoin. Chasseurs, soyez donc généreux.
Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre au 15 janvier, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le CEPAC.com ou au 1-800-665-6527.
Rendez-vous Nature, une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com.
Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
Retour à Rendez-vous Nature. Au cours de la dernière semaine, le contrôle des armes au Canada et son projet de loi C-21 a monopolisé l'attention du public et toutes les déclarations, ou à peu près, portent à confusion. Les plus controversées sont celles, évidemment, de Carey Price, qui savait pas. Mais celui, par exemple, qu'on peut croire à ses propos, c'est le président du magazine Aventure Chasse-Pêche, de l'émission de télévision aussi du même nom, qui est Martin Bourget, et qui a été sur toutes les tribunes ou presse au cours de la dernière semaine, et qui a vulgarisé les tenants et les aboutissants du projet de loi C-21. Martin Bourget, en plus de ton travail pour Aventure Chasse-Pêche, es-tu encore le représentant au Québec de l'Association nationale des armes à feu du Canada? Canada?
Mon nom est écrit à cet égard, effectivement, au niveau de la NFA.
Quelle est la nature vraiment de cette association?
Un peu comme le CCFR, parce qu'il ne faut pas les oublier, les deux travaillent de plus en plus dans des dossiers communs. C'est beaucoup, beaucoup de analyser des fonds pour être capable de mettre en place soit des poursuites ou encore des cas en cours pour créer des précédents, pour protéger le droit de propriété et le droit de légitimement avoir des armes à feu au Canada.
Est-ce que l'Association nationale des armes à feu du Canada a un lien avec la Coalition canadienne pour les droits des armes à feu qui offrait 10 % de rabais sur ses articles avec le code POLI? Puis ça a suscité un tollé partout.
Ces deux associations complètement séparées. De plus en plus, on les voit travailler ensemble sur certains dossiers, mais non, la CCFR, la coalition, et la NFA, la National Firearm Association, sont deux associations totalement séparées, là, qui font leurs choses chacun de leur côté.
OK. J'ai parlé de Carey Price, dont les propos discordants ont mis le feu aux poudres, littéralement. À mon avis, oui. Ils ont été d'aucune utilité au débat, sinon d'y nuire. Il avait le droit de s'exprimer. Il a mal paru avec le code poli. Mais entre toi et moi, là, puis ceux qui nous écoutent, me semble qu'il aurait été mieux de se taire.
C'est une opinion. Moi, je vais te répondre à ça, mon Dieu. Si je vais y aller sur une base personnelle, il s'est exprimé comme d'autres. Il y a une posture médiatique qui est beaucoup plus grande que d'autres, donc il est entendu haut et fort. Moi, je vais te revirer ça. Est-ce que le problème, présentement, c'est l'expression par certains groupes ou la récupération sociale que les groupes en font pour allonger un débat consciemment, pendant qu'en fait, présentement, le problème continue dans les rues, il y a de la criminalité. Je veux dire, est-ce que ces groupes-là qui se battent présentement contre la violence et mettent les chasseurs et les propriétaires d'armes à feu au banc des accusés pourraient pas faire une petite introspection et se demander s'ils sont pas en train de maintenir un débat volontairement et de le prolonger pendant qu'il y a des gens qui sont tués dans les rues? Moi, c'est ce qui m'intéresse, là, c'est ça. Là. J'ai comme plus de temps à perdre à débattre d'un code promotionnel ou d'un... C'est externe. Et si on embarque dans ces pièges-là, on fait juste continuer à amener le débat plus loin pendant qu'il y a de la vraie criminalité dans les rues. Et on connaît la source, on connaît les solutions, mais on n'applique pas de solutions. Et tout ça, là, c'était la base du projet de loi C-21, duquel on est rendu complètement dans le champ.
Je pense que le mérite de la sortie de Carey Price aurait été quand même de jeter la lumière sur le contrôle des armes. De la façon dont ça s'en allait, ben c'est comme si le gouvernement Trudeau était en train de nous en passer une petite vite. Avec la sortie de Carey Price, ben là quand même, ça a brassé toute la sauce, puis là, ça a remis le contrôle des armes à l'avant-plan de la scène.
Si on veut parler de l'influence que ça a eu dans le débat, ça a eu une influence excessivement positive, ouais. Effectivement, à afficher le fait qu'on a une problématique de criminalité qui est reliée aux armes. Et présentement, on est en train de l'amener dans la cour des propriétaires légitimes d'armes à feu, qui, historiquement au Canada, ne voient pas leurs armes incluses dans les actes criminels ou que très peu, hein, que très peu. On a d'un autre côté des professionnels, des experts du milieu, hein, l'Association des chefs de police du Canada, l'Association des services frontaliers, qui nous disent très clairement que 90 % des armes qui sont retrouvées sur des crimes, des crimes violents, des crimes proférés par des armes à feu, proviennent de l'autre bord de la frontière. Puis dans 10 % qui restent, sont criminalisés, sont des armes illégales pour la très grande majorité. On a donc deux constats. Hein. Ça, c'est des faits, c'est des données, c'est du vrai. Les armes qui profèrent des crimes sont ceux criminalisés. On est en train de tout mettre nos efforts dans les armes qui, historiquement, sont pas inclus dans les crimes. Alors, c'est sûr que la sortie de Carey Price, dans l'influence qu'elle a eue dans ce débat-là, elle est très positive dans ce sens-là. Et je la salue. Mario Dumont a d'ailleurs sorti là, très, très, très récemment un petit pas vers l'arrière par rapport à la vision qu'on avait de cette sortie de Carey Price-là et en le redirigeant justement vers le gouvernement. Et c'est un petit peu ce que ça permet. Ça permet de dire, mais est-ce qu'on va demander à Carey Price, dans ses propos, de se remettre en question alors qu'il est en plein dans le mille, dans le dossier qui est déporté complètement dans le mauvais sens, et qu'on ne devrait pas plus demander au gouvernement de faire une remise en question puisqu'il nous parle de sécurité publique et qu'il cible complètement à gauche.
Oui,
dans ce sens-là, si on s'attarde au débat, ça a été positif.
Oui, mais je pense quand même que le gouvernement de Trudeau est en train de s'ouvrir sur certains changements là dans la nomenclature des armes là, faisant partie prenante de l'amendement. Mais ce qu'on pourrait dire aussi à Carey Price, c'est que la prochaine fois, s'il y en a une, j'en douterais, qui fait une sortie concernant les armes, mais qui prenne aussi le soin d'utiliser la bonne photo. Parce que celle qui a été véhiculée, c'est uniquement un gun de chasse, un semi-automatique 12 servant à la surveillance. j'imagine. Puis ils savaient très bien, puis tout le monde le sait, tous les gens comme toi, comme ceux qui vont à la chasse, savent très bien que cette arme-là n'est pas identifiée comme étant une arme qui serait prohibée. Mais il y a un paquet de gens, d'intervenants qui se sont approprier cet aspect-là de l'histoire pour dire que Carey Price, ben là, regarde, voyons donc, même l'arme que sa photo, elle est bonne, son arme, pourquoi qu'il vient chialer aujourd'hui?
C'est une photo indicative.
C'est ça, elle était là pour illustrer son propos et non pas pour mettre la lumière, encore une fois, sur l'arme qu'il avait dans les mains.
Ben, définitivement, c'est une photo à titre indicatif. Mais ça anime tellement les débats. C'est correct là, que ça soit soutenu, la discussion. Mais allez-y dans la liste. Et oui, vous allez trouver des bénélis dans la liste, mais prenez la peine de lire le paragraphe qui est juste au-dessus. Ça dit « with the exception of » par exception de, et là, il y a la liste de toutes les bénélis, Super Black Eagle, etc. Donc, elle n'est pas ciblée présentement. Mais tu sais, si on ramène à ces dispositions-là, là, la liste, non, il faudrait s'en... Il y a une raison pour laquelle elle nous intéresse, c'est surtout parce que les armes qui sont listées dedans présentement, là, les nouvelles armes, ne répondent pas à la nouvelle définition. Autrement, la liste, on s'en fout un peu. Dans le sens suivant, ce qui nous préoccupe, c'est la définition qui est excessivement large. Hein? On définit arme à percussion centrale, mécanisme semi-automatique, à chargeur de plus de 5 cartouches. Prenez des modèles semi-automatiques excessivement courants qui étaient distribués au Canada avec un chargeur de 3 cartouches, puis on rajoutait une balle dans le canon avant de mettre le chargeur. Eh bien, dans d'autres pays, dans les mêmes temps, parce que la loi prévoit que le chargeur, c'est disponible au moment de la mise en marché ou au moment de l'achat, mais la même arme était vendue aux États-Unis avec des chargeurs de 7 et de 10 munitions. Donc, dans la définition de la loi présentement, ce sont des millions d'armes à feu qui sont ciblées par cette définition-là si elle n'est pas raffinée. Tu m'apportes le point que le gouvernement semble vouloir faire un petit pas à l'arrière et c'est ce que les messages semblent nous dire présentement. Le point, je vais t'apporter, mais on ne veut pas d'accommodement raisonnable dans une liste. Non. Parce que présentement, on nous liste des choses comme la Weatherby Mark V ou encore la Ruger No. 1. Là, tu as un mécanisme à verrou et un mécanisme à levier. Dans les deux cas, la Ruger No. 1, on dit que c'est un falling block, donc on pourrait la remachiner, la rechambrer dans un calibre qui équivaut à 10 000 joules. Puis la Weatherby Mark V, on dit elle est là parce qu'elle existe dans des calibres qui surpassent les 10 000 joules. Moi, ce qui m'inquiète énormément, c'est qu'on liste des modèles, des noms de modèles. Et si on s'en réfère à la première passe de la C-21, on avait dit l'AR-15 et ses variants. Mais regardez qu'est-ce qui a été inclus dans ces variants. Des Derya MK-12 qui sont même pas une carabine, c'est un fusil de chasse au petit gibier avec un look, avec une poignée ergonomique, etc. La largeur de ce qu'on inclut dans et ses variantes est problématique parce que là, vous me parlez d'une arme à verrou, à culasse pour les intimes. C'est quoi les variantes d'une arme à culasse? C'est plus que 50% des armes de chasse sur le marché. L'autre, c'est une arme mécaniste à levier. C'est quoi les variantes d'une arme à mécanisme à levier? Votre vieille 30-30, votre Marlin, ça inclut énormément d'armes. Il y a un danger potentiel à parlementer sur des accommodements raisonnables de « on va lister un tel, on va délister un tel », et on nous amène encore très loin dans le débat. Alors, si on revient à la base, il n'y a même pas de débat admissible sur les armes qui sont présentement propriétés des propriétaires d'armes à feu légitimes au Canada, puisqu'elles ne sont pas présentes dans ces méfaits-là. Par contre, les armes, la criminalité, les armes criminalisées est passées par nos frontières, qui manquent gravement de scanners performants pour les trouver. Elles font office à raison de 90% dans les actes criminels. C'est-à-dire, à un moment donné, quand tu fais une recette et elle ne marche pas, il faut que tu regardes ta recette, voir si tu as oublié un ingrédient. Là. Trudeau a mis ces politiques-là en place. Il y a des gels qui ont eu lieu. Il y a eu une première liste qui a été mise en place avec l'AR-15 et ses variantes. Le résultat, quand tu sors le gâteau du fourneau et tu regardes ce que ça a donné, c'est 32% d'augmentation d'un crime violent puis 92% d'augmentation d'un crime relié aux gangs de rue. Ben là, tu retournes à ta recette, tu te dis « j'ai peut-être oublié à peau d'apport quelque chose en même, mais on n'a clairement pas bonne ».
Mais Martin Bourget, dans toutes tes interventions, il reste quand même que les gens ont beaucoup appris, puis je te dirais que même Anne-Marie Dussault a utilisé le même mot. Elle a parlé du mot « joule ». Toi aussi, tu viens d'en parler. Qu'est-ce que c'est qu'un joule?
Une puissance. C'est une unité de mesure qui va mesurer la puissance qu'il y a à la sortie, à la bouche du canon. Donc, ça nous permet de mesurer en termes de capacité de puissance. C'est un calcul qui est quand même assez complexe. Hein? Ouais. Quand la balle sort de la bouche du canon. Pour comprendre un peu mieux, là, c'est pas mal les calibres, mettons, des rugby, etc., des calibres quand même de grande puissance. Souvent, les chasseurs ont pour faire les safaris, la chasse en Afrique, des trucs comme ça. Ou encore du tir à la cible à longue distance pour ce qui est des tireurs sportifs. Donc, c'est une catégorie d'armes qui est peut-être un peu moins populaire. Mais en reste que c'est un droit à propriété, c'est un droit à la propriété pour un chasseur qui chasserait en Afrique puis qui veut amener son arme, par exemple. Et il reste qu'elle n'est pas plus présente que les autres dans l'histoire de la criminalité.
Si on faisait l'exemple de l'orignal, à la chasse de l'orignal, la carabine utilisée et les projectiles, quelle est la limite de joules que cette arme-là, pour l'orignal, peut posséder?
Non, mon Dieu, on est très loin du 10 000 joules. On est très, très loin du 10 000 joules. Donc, tu sais, on commence vraiment là dans les calibres Rigby. Même dans les 338, la pointe Magnum, on va pas... là, c'est sûr que on y va... Ma définition, on y va avec des, de la munition tablette. On va s'entendre parce qu'il peut y avoir des variantes en masse. Hein. Moi, j'ai du cheat... pas du cheat-tac, mais du snipe-tac ici, qui est un mix entre, justement, de la cheat-tac et de la lapoix au niveau de la douille et le... Et du projectile, on pourrait aller loin en reloading. Mais si on parle de balles tablettes, hein, vos armes de chasse standard, là, orignal, grand gibier, là, ça va même pas proche du 10 000 joules. Là. Ça, on va s'entendre. N'en reste moins que les propriétaires d'armes à feu qui ont des armes pour aller en safari ou un tir sportif de plus longue distance ont pas plus quoi que ce soit à voir dans cette dans criminalité que le reste des propriétaires légitimes d'armes à feu.
Tout le monde se perd dans le fameux document de près de 400 pages avec tous les amendements. Là, tu nommes des armes que j'entends pour la première fois, mais le commun des chasseurs, qu'est-ce qu'il doit retenir de ce projet de loi, des amendements apportés qui peut l'affecter directement dans la pratique de ses activités?
Très simple, en trois points. Les définitions actuelles définissent largement l'ensemble des armes de chasse dans les mécanismes suivants. Semi-automatique, par la liste, arme à verrou et arme à levier. Si le projet de loi, l'amendement G4 et G46 passe comme il l'est dans sa définition et dans les armes qui ont été listées en incluant leurs variants, vos armes semi-automatiques, vos armes à levier et vos armes à verrou sont en danger puisqu'on inclut les variants et on n'a pas de clarté au niveau de la définition. Alors là, ce qui se passe présentement, c'est que les partis de l'opposition demandent de la clarté dans les définitions, et la réponse qu'on a en conseil, en comité, excusez-moi, sur la sécurité publique présentement dans ces demandes-là, c'est on ne vous a pas demandé de débattre, ces amendements-là ont été acceptés. Donc, ce qui est en train de se passer, c'est qu'on est en train, un peu comme dans l'ordre en conseil, de vous mettre dans la gorge et de vous obliger de vous rendre criminel avec vos armes dans des définitions qui sont beaucoup trop larges sur lesquelles même l'opposition, qui devrait pouvoir débattre en démocratie, ne peut pas le faire. Fait que vos mécanismes à levier, vos mécanismes à verrou et vos mécanismes semi-automatiques, si ça reste comme c'est là, elles sont toutes en danger.
Parce qu'il reste qu'en bout de ligne, là, finalement, que toutes les armes peuvent servir comme armes de chasse.
Le stylo, j'ai dans les mains aussi. Définitivement, toutes les armes peuvent servir comme armes de chasse, mais au bout de la ligne, on est encore dans la partie du débat qui concerne du matériel. Tu te souviens, on a parlé ensemble dans le passé de l'individu face au matériel. Oui, toutes les armes peuvent servir d'armes de chasse. Il y a une régulation quand même au Canada. Il y a des calibres. Ça prend un 2,43 minimum pour aller à la chasse au grand gibier légalement au Canada. La communauté des chasseurs, c'est quand même munie de réglementations qui les responsabilisent. Le fameux 5 balles et plus, là, qui est inclus dans le décret actuel, là. Mais au Québec, vous n'avez pas le droit de chasser avec plus de 5 balles. Vous n'avez pas le droit de toucher aux 5 balles. C'est 3 balles, là. Ça, c'est la loi, là. Vous voyez comment est-ce que on a, je le répète, j'ai déjà eu ça, moi, des cours optionnels en magie au secondaire où est-ce qu'ils te montrent à montrer la main pendant que tu caches la pièce, là. Mais c'est là qu'on est, et c'est là que le gouvernement nous amène présentement. On est dans une, tu sais, les anglophones, les avocats disent « bury under paper ». Quand tu veux gagner un processus administratif, tu complexises la patente puis t'enterres sous le papier. On est en train de nous enterrer sous le papier pendant qu'on est en train de cacher la pièce. Et les conspirationnistes trouvent beaucoup de gaz là-dedans, et avec raison, parce que tout semble croire qu'on tient volontairement le débat dans la complexité la plus absolue au moment où est-ce qu'on revient à base. J'ai une fuite d'eau dans la maison. Je vais colmater la fuite. Je ne couperai pas l'arrivée d'eau potable de la municipalité au complet. On connaît le problème. On connaît la source. On est rendu complètement dans le champ gauche. Et on nous confirme, avec le programme potentiel de rachat d'armes à feu, avec ce qu'on est prêt à perdre dans l'industrie, avec la mise en place des différents travaux actuels qui entourent la C-21, qu'on a des millions, voire des milliards de disponibles pour répondre aux demandes officielles des autorités actuelles qui sont les vrais experts, les chefs de police, les services frontaliers, des services de santé mentale, qui ont besoin de meilleurs scans aux frontières, plus d'effectifs sur le terrain, puis plus d'effectifs en prévention. Alors, on nous confirme qu'on a l'argent, qu'on nous confirme qu'on connaît le problème, il est où le problème?
Oui, puis il me semble, puis je vais terminer là-dessus, le gouvernement Legault devrait lever le petit doigt, peut-être pas l'index, mais le petit doigt pour dire, ben regarde, on a des chasseurs qui rapportent beaucoup d'argent, ils rapportent des milliards aux provinces, surtout les régions qui en profitent. Faudrait peut-être aussi que le gouvernement provincial, comme les gouvernements provinciaux des autres provinces, s'implique aussi dans le débat.
Te souviens-tu qu'on y a demandé dans le temps du registre?
Oui.
Et tu satisfais de la réponse?
Ben non.
Et voilà.
C'est ça. Alors, sur ces mots d'espoir, ben Martin Bourget, d'Aventure Chasse-Pêche, émission et magazine, spécialiste de balistique et spécialiste des armes, ben merci pour tous tes propos. Tu nous as encore une fois éclairé sur bien des points.
Ben, merci.
J'ai pas aimé ton entrevue avec Anne-Marie Dussault parce qu'on voyait vraiment là, qu'elle avait un parti pris puis c'était flagrant. Mais enfin, t'as réussi quand même à faire passer tes messages. Faut pas qu'on oublie ce débat qui est trop important pour l'avenir de la chasse au Québec. Ben, je te remercie puis je te dis à une prochaine fois.
Merci.
Le Réseau ZEC. 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt-à-camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez réseauzec.com.
Vos marchands Pro Nature, des conseillers spécialisés, vous attendent en magasin pour vous transmettre leur passion et vous guider dans vos achats. C'est le temps d'en profiter. Visitez notre site web au groupepronature.ca pour trouver votre marchand le plus près de chez vous. Vos marchands Pro Nature, une expérience complète pour la chasse, la pêche et le plein air.
Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre au 15 janvier, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le CEPAC.com ou au 1-800-665-6527.
C'est payant de cliquer j'aime et de partager la page Facebook de Rendez-vous Nature. Tous les jours, suivez nos reportages, nos entrevues et nos conseils de professionnels. Aimez, commentez et joignez la grande famille de la chasse, de la pêche et du plein air. Participez à nos concours sur Facebook et gagnez gros grâce à Rendez-vous Nature, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.
Rendez-vous Nature. Une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com.
Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
De retour à Rendez-vous Nature, j'accueille maintenant notre chroniqueur Charles-Henri Doris, spécialiste des grands gibiers, auteur et formateur. Charles-Henri Doris revient de l'Alberta où pendant 8 jours, il a chassé le grand cerf de l'Ouest. Une expédition mémorable et exceptionnelle. Raconte-nous un peu comment tout cela s'est passé et en commençant par le début.
Ce qui est particulier dans mon cas cette année, c'est que j'avais mis beaucoup de temps sur la prospection au printemps, installé une cinquantaine de caméras à l'aide de Trump là-bas et de mon frère. Je suis arrivé là-bas le 9 novembre. Puis en arrivant, j'étais accompagné de mon ami Alexis, caméraman de la tournée de film Chasse-Pêche. On a fait le relevé là, de peut-être une 35, à peu près 35-40 des caméras. Puis dans le but de savoir ou d'établir à quel endroit il y avait le plus de possibilités que je récolte ce qu'on appelle un trophée. T'sais. Je ne me considère pas un chasseur de trophées, sauf quand il y en a, j'essaie de cibler ces modèles-là. Puis là, je me suis rapidement rendu compte qu'il y avait un spot en particulier où j'avais un mâle là, d'un pointage Boone & Crockett approximativement de 165 qui était présent. Mm-hmm. Auparavant, mon plus gros, j'avais tué au Québec. C'était un buck de la zone 7 Nord. J'avais tué en 2009. J'avais surnommé le King. Des gens qui me connaissent depuis une couple d'années ont déjà entendu l'histoire. J'avais tiré ce boc-là là, le 28 septembre 2009. Ce boc-là en question il avait un pointage brut de 169,28, un net de 163,68.
Quand même.
Et moi, je me considère, comme je disais tantôt, je ne me considère pas un chasseur de trophées. Par contre, lorsqu'il y a des gros, je concentre mon énergie sur ceux-là, mon focus. Par contre, malheureusement, au Québec, depuis une couple d'années, j'ai pas la chance d'avoir des très productifs terrains. Donc, au Québec, je concentre pas nécessairement mon énergie sur les trophées, mais plus sur le plaisir, la base, m'amuser, chasser le fer sans bois à l'arc, etc.
Avant d'aller plus loin, Charles-Henri, est-ce que tu constates que cette année, les densités de serres sont plus importantes, justement, dans l'Ouest canadien, en Alberta, où tu es allé, que les années passées? Est-ce que tu sens une progression du cheptel chevreuil dans ce territoire-là, dans cette province-là?
Non, pas du tout. Il y a une baisse. Une baisse assez marquée, en plus, parce que l'hiver dernier, elle a été extrêmement difficile sur la partie centre-nord. L'Alberta, la Saskatchewan et une bonne partie du Manitoba, des précipitations incroyables, puisque le chevreuil là-bas n'est pas très accoutumé ou habitué de combattre les grandes quantités de neige. Il y a des secteurs en particulier de l'Alberta, de la Saskatchewan, des milieux forestiers qui ont perdu pratiquement 50 % des bocs. Ah oui. Puis même, ça a apparu, même nous autres, on l'a remarqué au niveau des densités générales, ça a apparu au niveau de nos caméras, nos observations sur le bord des chemins, les traces, etc. Cependant, la qualité est encore là parce qu'un cheptel qui est fort et en santé, avec des ratios balancés, est capable d'endurer un hiver plus difficile que la moyenne. C'est la deuxième qui peut être vraiment catastrophique. Et la troisième, ce qui est la grosse différence avec nous autres, c'est que si on avait à vivre un hiver catastrophique ici, ça serait la catastrophe dès la première hiver.
Oui, c'est ça. Mais là, revenons à ta chasse. Donc, tu as effectué quand même le relevé de tes caméras. Tu as pris là une décision importante. Tu as pris la décision de chasser un boc en particulier, un grand mâle bien panaché, que tu estimais avoir un pointage de panache d'au moins 165 points Boone and Crockett. Puis là, tu t'es concentré sur ce boc, un peu de rêve finalement.
Ouais, ben écoute, dans le fond, il était facile à reconnaître, parce que c'est un beau gros, un frame de 10 points, si on compte le nombre de points, on avait 8 par 7. Mais c'est un frame de 10. Puis, ouais. On dit 165 points. J'ai appris à scorer les bocs avec les années. Le problème qu'on a, c'est que souvent, sur caméra de surveillance, quand on est rendu expérimenté, on sous-estime un petit peu les panaches. Ouais. Tu sais, ça repousse. C'est bien être un boc de 170 points, mais la différence est un peu notable. Ce qui est particulier, c'est que dès mon premier matin de chasse, j'avais mon temps qui filmait pour moi, Alexis. J'ai eu la chance au lever du jour de voir un petit boc passer. Puis, à 10 heures, je faisais des séances d'appels de rattling. J'ai été changé aussi avec des appels de biche en chaleur. Puis, écoute, le boc, il s'est envenu à nous autres à 10 heures le matin. Il s'est arrêté, puis il s'est immobilisé à 225 pieds de nous. Okay. Puis, j'ignore pourquoi. C'est bizarre, des fois, on a un sixième sens, les chasseurs, comme les chevaux peuvent avoir. Je le sentais sur place qu'il était en train d'enquêter. C'est comme si on venait d'entrer dans son domaine, dans sa place. Parce que c'était vraiment au cœur de son domaine vital, là. Ce que moi j'appelle leur bunker, ou ce qu'ils vivent, là, les bocs, avant de se séparer. Puis on aurait dit qu'il était venu investiguer c'est quoi ces brûlants matin, qui fait du bruit de même. Puis il cherchait. Il a été jamais 6 minutes de temps dans un couvert relativement dense. Puis on avait la tête dans la vidéo, le panache, on voyait la tête et le panache. Mais on s'entend qu'à 225 pieds, tu vois pas nécessairement bien toujours les petites branches qu'il peut s'y avoir. Je voulais pas le prendre au début parce que je trouvais que c'était trop rapide pour ma chasse l'année d'avant, en 2021. J'ai récolté après 1 heure de chasse. Et des fois, quand c'est un trophée, c'est correct, il faut le prendre, mais ça n'en vient plate même année quand ça nous arrive 2 ans d'affilée parce qu'on chasse pas vraiment longtemps. Tu sais, le fait de chasser avec un permis d'impoche, de désirer quelque chose, de rêver, d'espérer, d'y croire, c'est ça que j'aime tant de la chasse, pas juste de peser sa clanche. Même si c'est un trophée, quand tu le fais trop tôt, tu te rends compte que, Colin, tu vis pas ces moments-là. L'espoir, puis même les moments que tu peux vivre durant ce jour, pas la crainte, mais la peur de revenir bredouille, puis tu te questionnes, mais toutes ces phases-là, j'aime ça, vivre ça, moi.
Mais là, tu l'as manqué, ce boc-là, là.
Effectivement, finalement, étant donné que mon ami était là, puis il me dit, je l'ai dans la caméra, j'ai la tête claire, puis il est en focus. Après 6 minutes, j'ai pris la décision de le prendre. Je me suis dit, après tout, c'est un animal trophée. Puis j'étais extrêmement stable. Je me considère un excellent tireur et sur cible et sur gibier. J'ai pris une shot de coup, ce qui n'est pas recommandable. En situation de chasse, des fois, ce qui nous passe par la tête, c'est surprenant. Puis on voit sur l'image vidéo, je manque la cible d'un pouce. La balle fesse dans les broussailles, dans les arbres, juste en arrière du cheval. Je l'ai vraiment pas touché. On a eu la chance de confirmer ces observations-là sur place. Puis la même nuit, il est revenu au grattage, un de nos grattages primaires. On l'a photographié de toute façon toute la durée du séjour sur différentes caméras. Il n'est pas blessé, Mais ce qui est particulier, pour moi, dans le meilleur des mondes, ça aurait été que ça tombe sur place, mais une heure et demie après avoir été validé sur place au sol, la neige, etc., on était à trois, on a fait beaucoup de rondes, pas une gouttelette de sang. J'étais content de l'avoir manqué. Je considérais que personnellement, je ne méritais pas d'avoir réussi cet abattage-là dans les circonstances que j'ai pris la décision de le prendre. Puis je ne méritais pas d'avoir sa prestance, son panache entre mes mains avec ce genre de tir-là. J'étais content de savoir que, pas grave, je vais pouvoir continuer à chasser, puis peu importe s'il arrive, je vais avoir du bon temps en passant en forêt, observant la nature, puis à rêver encore d'en voir un autre.
Alors, c'est une très, très belle histoire de chasse, puis Charles-Henri Doris, ben, je te félicite, c'est une chasse exceptionnelle, puis grand merci de l'avoir fait vivre à nos auditeurs et auditrices de Rendez-vous Nature. Mais j'imagine que ce buck, il vient à quelque part te donner des munitions pour ton équipe Team Nexus, pour la seconde présentation de la classique Whitetail.
Oui, effectivement, un buck de ce calibre-là, je me ramasse à ramasser une couple de points bonus aussi par rapport qu'il n'a pas été tiré sur un appât, par rapport ça me surprendrait que ce soit délogé, que ça va être le plus gros buck de la classique. Cependant, c'est un marathon, hein, la classique, puis si on prend exemple l'équipe d'Alain Ferland Sport, Luc Brodeur, Tommy Maillot, eux autres, ils ont réussi à récolter leurs deux bucks filmés. Fait que déjà, il faut qu'on en récolte un autre, là, Hugo et moi, là, ce qui n'est pas fait encore. Hugo est présentement en Alberta. Moi, je pars pour le Manitoba demain, un nouveau secteur que je connais nullement. Donc, mes attentes sont réalistes. Je m'en vais pas là dans le but de faire un record. Je m'en vais là dans le but de m'amuser, découvrir. Puis, faut pas oublier non plus la classique. On veut la gagner, mais on ne vivra pas fou avec ça. Moi, mon prix, là, ma victoire, là, je pense que la nature me l'a offert en cadeau là, le 18 novembre au matin.
Ouais, mais en tout cas, tu restes quand même que tu as des bonnes chances de ton bord. Puis là, tu t'en vas justement du côté du Manitoba. Je te souhaite bonne chance là-bas. Bon séjour du côté de l'Ouest canadien au mois prochain. Salut!
Ben, ça m'a fait plaisir. Bonne journée tout le monde.
Le Réseau ZEC, 63 territoires publics partout au Québec. Chasse, pêche, plein air et camping pour ravir les grands et les petits. C'est le réseau de la liberté en nature avec des chalets, du prêt-à-camper, des yourtes et des embarcations. Imaginez-vous en train de planter votre tente où vous voulez sur le territoire. Dans le Réseau ZEC, c'est possible. Vivez l'expérience en famille, entre amis et avec votre animal de compagnie dans les ZEC du Québec. Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez réseauzec.com.
Vos marchands Pro Nature, des conseillers spécialisés, vous attendent en magasin pour vous transmettre leur passion et vous guider dans vos achats. C'est le temps d'en profiter. Visitez notre site web au groupepronature.ca pour trouver votre marchand le plus près de chez vous. Vos marchands Pro Nature, une expérience complète pour la chasse, la pêche et le plein air.
Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réseaux. Les tirages au sort de la CEPAC sont débutés. De vastes territoires exclusifs, du gibier à profusion et une large sélection d'hébergements et de forfaits possibles. Pas de doute, les meilleures destinations de chasse du Québec se trouvent dans les réserves fauniques et à CEPAC Anticosti. Du 1er décembre au 15 janvier, inscrivez-vous au tirage au sort de la CEPAC via le CEPAC.com ou au 1-800-665-6527.
Suivez toute l'actualité dans le monde de la chasse, de la pêche et du plein air sur le web grâce à Rendez-vous Nature. Tous les jours, soyez informés des principales nouvelles au Québec au rendez-vous-nature.ca. Reportages, entrevues, conseils de professionnels, vous connaîtrez tout de la chasse, de la pêche et du plein air à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec. Suivez-nous au rendez-vous-nature.ca.
Rendez-vous Nature. Une présentation du Réseau ZEC, le réseau à découvrir. Visitez leréseauzec.com.
Partout au Québec, de retour à Rendez-vous Nature. Voici Ernie Wells.
C'est ainsi que se termine notre rendez-vous nature de cette semaine, une semaine qui n'a jamais autant mis la chasse et ses armes au devant de la scène médiatique. À mon avis, Ottawa ne s'en prend pas à la bonne cible en ciblant les honnêtes chasseurs et détenteurs d'armes dûment enregistrées et réglementées. Justin Trudeau devrait contrôler davantage ses frontières passoires pour éviter l'entrée d'armes illégales. Mais on laisse passer librement de la merde humaine provenant des États-Unis, dont les États de New York et du Vermont, pour fertiliser les champs du Québec. Et nous, ensuite, bien, on mange des légumes remplis de contaminants, comme on l'a vu récemment à l'émission Enquête à Radio-Canada. Le contrôle des armes est sérieux, il ne devrait pas être laissé dans les mains des politiciens rédiger des projets de loi comme C-21. Ottawa doit faire appel à des experts qui connaissent la réalité des chasseurs et des armes. Ils doivent être consultés et être partie prenante à la rédaction de la législation. Les politiciens ne sont pas des experts, loin de là. La grande majorité ne connaît même pas les exigences pour obtenir un certificat de chasseur et un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Ils ne sont pas plus au courant non plus des enquêtes de la GRC sur le dossier de chacun des individus qui demandent un permis de possession et d'acquisition d'armes à feu. Si Ottawa voulait que son projet de loi C-21 encadre certains calibres d'armes qui n'ont pas leur place à la chasse, il aurait dû les nommer, tout simplement, et éviter toute la confusion qu'on connaît. Il n'y a rien de pire que l'interprétation et tenter d'expliquer, comme dans ce cas, un projet de loi qui est obscur au départ. Ici Ernie West qui vous remercie d'avoir accepté mon invitation de cette semaine et qui vous dit à la semaine prochaine pour un autre Rendez-vous Nature. Suivez-nous au quotidien sur rendez-vousnature.ca pour être au fait des nouvelles du jour en chasse et pêche et écouter et réécouter les entrevues des émissions passées toujours à rendez-vousnature.ca. Prenez soin de vous et des autres et à très bientôt pour un autre Rendez-vous Nature.
L'aventure Rendez-vous sur le web en consultant nos nouvelles au rendez-vousnature.ca, à la radio et sur le web. Rendez-vous Nature, la référence de l'information phonique au Québec.